RFI, 6h à Paris, 5h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour à toutes et à tous. C'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Gaëtan Planet. Ah,
bonjour Julien, bonjour à tous.
Les sondages se sont trompés en Roumanie.
Le candidat pro-russe Calin Georgescu était crédité d'à peine 5% des intentions de vote. Il arrive finalement en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Dans ce journal également, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la guerre à Gaza où les hôpitaux sont à bout de souffle, et puis on parlera aussi de la visite en France d'une délégation d'historiens et d'archivistes sénégalais à l'approche du 80e anniversaire du massacre de Tiaroy.
C'est un véritable séisme politique en Roumanie.
Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ne sont pas encore tout à fait définitifs, mais c'est le candidat pro-russe qui semble arriver en tête, Calin Georgescu, un candidat que les sondages n'avaient pas vu venir, mais qui recueille plus de 22% des suffrages selon les dernières données. Il a fait campagne avec des messages anti-système, anti-Union européenne, anti-OTAN aussi. Alors on attend la confirmation de l'affiche du second tour qui aura lieu le 8 décembre, mais on se dirige a priori vers un duel entre Georgescu et Marcel Ciolacu, l'actuel Premier ministre pro-européen, lui. À Bucarest, Anna Harrison.
Qui est Calin Georgescu? Voilà la question que toute la Roumanie s'est posée hier soir. Le nom de Calin Georgescu est pourtant déjà apparu dans la politique roumaine. Il a travaillé dans des différents ministères et a été proposé à plusieurs reprises pour le poste de Premier ministre. Il n'a encore jamais réussi à s'imposer et presque personne ne se souvient de lui. Ses messages ont un caractère messianique et proposent de sauver la nation roumaine qui aurait, selon lui, besoin de retrouver son prestige et sa souveraineté, comme il l'a encore dit hier soir.
Nous.
Nous n'avons jamais été et nous ne sommes pas en campagne électorale. Nous sommes dans une mission les uns avec les autres et tous avec Dieu. Ce soir, le peuple roumain a crié « Nous voulons la paix ». Il a crié très fort, extrêmement fort. C'est l'éveil de la conscience du peuple roumain. J'ai toujours dit que l'insécurité économique et sociale qui s'est aggravée depuis 35 ans et nous a humiliés en permanence a pris sa revanche sur la classe politique.
Le vainqueur du premier tour des élections présidentielles en Roumanie a fait l'objet dans le passé d'une enquête pénale à cause de ses déclarations antisémites. Anna Harrison, Bucarest, RFI.
Nous sommes le lundi 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Ah, c'est l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde, selon l'ONU, qui avance ce chiffre. En 2023, une femme a été tuée toutes les 10 minutes par son compagnon ou un membre de sa famille. Nous devons investir davantage dans les organisations de femmes, améliorer la législation, poursuivre les coupables aussi, plaident les Nations Unies. Alors en France, après un week-end marqué par des manifestations, d'autres doivent d'ailleurs avoir lieu dans la journée, la sous-secrétaire d'État à l'égalité doit dévoiler un plan d'action. Et peut-être s'appuiera-t-il sur une loi cadre dont le texte a été proposé il y a quelques semaines maintenant par une cinquantaine d'associations féministes et de syndicats. Parmi eux, la Fondation des femmes, dont Louise-Anne Baudrier est la chargée de mobilisation.
Cette proposition de loi intégrale, elle contient 130 mesures environ. Il y a à la fois donc renforcer les moyens financiers pour soutenir les victimes, mais aussi renforcer les moyens matériels comme les formations pour les forces de l'ordre, pour les avocats, pour les magistrats, pour les professionnels de santé, pour qu'ils soient plus aptes à identifier les risques, comme les risques de soumission chimique, ou alors même qu'ils soient formés aux conséquences du trauma. Ça va être aussi revoir les délais de prescription, concevoir ou créer des centres d'accueil aux victimes qui sont peut-être plus adaptés en fonction des âges, par exemple des centres pour les enfants spécialisés, ou alors encore définir mieux certains crimes tels que le viol. Depuis le Grenelle des violences, c'est des recommandations qu'on avait déjà faites pour certaines et qui ne sont pas appliquées ou alors pas entièrement. Et donc on essaie d'aller plus loin. En plus, on voit que cette culture de viol elle est encore très présente. Et là, il y a aussi tout un pan sur l'industrie pornographique qui était moins présente lors des Grenelles ou alors même les violences contre les enfants.
Des propos recueillis par Amélie Beaucourt. Il n'y a pas qu'en France que les autorités et les associations tentent de lutter contre les violences faites aux femmes. On sera notamment en Haïti dans le prochain journal. Au Soudan aussi, dans le reportage international du jour, alors que ces violences augmentent dans les zones de conflit. C'est le cas donc du Soudan, après plus d'un an et demi de guerre entre les généraux Al-Bourhan et Hemeti. Le reportage sera signé Elliot Brachet, qui est notre envoyé spécial, mais aussi celui du journal Le Monde. Il a récemment pu revenir dans la capitale Khartoum pour recueillir des témoignages rares dans cette guerre à huis clos, qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et qui provoque malnutrition et maladie. Vous entendrez ces productions tout au long de la journée, et Elliot Brachet sera en direct avec nous dans le journal de 7h temps universel.
Et une autre guerre, celle qui continue à Gaza.
Elle sera notamment au menu d'une réunion de deux jours des ministres des Affaires étrangères du G7. Ça commence aujourd'hui près de Rome en Italie. Après plus d'un an de bombes israéliennes dans l'enclave, la situation humanitaire est catastrophique. Et le ministère de la Santé du Hamas au pouvoir à Gaza prévient que les hôpitaux régulièrement pris pour cible pourraient être contraints de cesser de fonctionner dans les jours à venir en raison de l'obstruction de l'entrée du carburant par Israël. Et Julie Faucon est la coordinatrice médicale de Médecins Sans Frontières. Elle se trouve à Ran Younes, dans le sud de la bande de Gaza, où elle et ses collègues tentent de faire ce qu'ils peuvent face à l'extrême détresse des familles déplacées dans l'enclave sous blocus.
Les besoins sont tels aujourd'hui sur la bande de Gaza qu'il faudrait qu'on ait la possibilité de faire plus, mais qu'on est limité, que ce soit en termes d'approvisionnement, que ce soit en termes de ressources humaines, de supply en médicaments, etc. Une énorme partie de la population, 1,9 million de personnes, sont dans une zone où la densité de population est telle que personne n'arrive à avoir accès à des sanitaires, à des toilettes, à des douches. Les campements de population déplacée sont faits avec des morceaux de tissu, des morceaux de bois. Et ce ne sont pas des tentes réelles, ça ne les protège pas. Aujourd'hui, il pleut. Dans nos centres de santé, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont en lien avec ces conditions de vie. Il y a un de nos patients sur trois aujourd'hui qui vient à l'hôpital pour des infections respiratoires, des infections cutanées, digestives, énormément de diarrhée. En addition à ça, toutes les questions de sécurité et de la dangerosité de la vie aujourd'hui à Gaza.
Des propos recueillis par Oriane Verdier.
La guerre continue aussi au Liban et les cours sont suspendus aujourd'hui dans les écoles et les universités de Beyrouth et de ses environs.
La journée a une nouvelle fois été particulièrement violente hier avec des raids sur la banlieue sud de la capitale, fief du Hezbollah, mais aussi un tir d'artillerie israélien contre une position de l'armée libanaise au sud de la ville de Tyr, dans la partie méridionale du pays. Au moins un mort et 18 blessés parmi les militaires libanais. Le Hezbollah, de son côté, dit avoir lancé des centaines de roquettes vers le nord et le centre d'Israël.
À l'approche du 80e anniversaire du massacre de Tiaroy, ce sera le 1er décembre prochain, une délégation d'historiens et d'archivistes sénégalais sillonne actuellement les fonds d'archives français.
La France assure avoir remis au Sénégal, il y a 10 ans maintenant, une copie de toutes les archives qu'elle possède sur ce massacre. Mais le Sénégal suspecte l'existence de documents gardés secrets pour empêcher que toute la lumière soit faite sur cet épisode sombre de l'histoire coloniale. Alors la mission sénégalaise arrivée à Paris doit faire un état des lieux, Florence Maurice.
À son arrivée en France, la délégation a été reçue par le Quai d'Orsay. Paris promet de jouer la transparence et de lui ouvrir les portes de tous les fonds d'archives qu'elle voudrait consulter. L'initiative de cette mission vient du président sénégalais. En octobre, au téléphone avec le président Macron, Bassirou Diomaye Faye a insisté pour que son pays puisse accéder à une série de documents qui permettraient, selon certains historiens, de répondre à des questions toujours sans réponse 80 ans après le massacre. Combien de victimes? Où sont-elles enterrées? Ou encore, quel est le montant de la solde de guerre que la France leur devait. Selon Paris, tous les documents existants ont déjà été remis, d'autres auraient disparu ou jamais existé, mais Dakar soupçonne que certains ont pu être dissimulés. Selon Mamadou Diouf, l'historien qui préside le comité de commémoration de Tiaroy, la délégation a donc pour mission de sillonner les fonds d'archives français pour identifier et cartographier ce qui est disponible afin de lancer de nouvelles recherches. Selon nos informations, il devrait notamment se rendre aux archives diplomatique de Nantes et aux archives militaires de Pau. La France, elle, espère un apaisement dans un dossier qui encombre la relation franco-sénégalaise depuis des décennies.
Et Mamadou Diouf, historien à l'Université Columbia de New York et président du comité de commémoration mis en place par le Sénégal, sera notre invité dans Afrique Midi sur RFI. Et j'ajoute que les quatre premiers épisodes du podcast RFI de Charlie Dupiot, Tiaroy, les tirailleurs sacrifiés, sortent aujourd'hui sur RFI.fr, sur Pure Radio aussi, et puis sur vos plateformes d'écoute préférées.
Il a été professeur d'histoire, le voici président.
En Uruguay, le candidat de l'opposition de gauche, Yamandou Orsi, a remporté hier le second tour de l'élection présidentielle. Les résultats sont en train d'être confirmés, ils ne sont pas encore tout à fait définitifs, mais le retard est rattrapable pour son adversaire de centre droit, Alvaro Delgado. La victoire de Yamandou Orsi marque le retour au pouvoir de la gauche dans le pays, mais pas de grands bouleversements à venir, Théo Conscience.
Ex-professeur d'histoire issu d'un milieu modeste, Chamandou Orsi s'est imposé hier au second tour de l'élection présidentielle. Dans son discours de victoire, l'héritier de l'ex-président Pepe Mujica a promis de travailler à une société plus juste et égalitaire.
Je serai le président qui construira une société plus cohésive, un pays plus intégré, où en dépit des différences, personne ne sera jamais laissé de côté du point de vue économique, social et aussi politique.
Quelques minutes auparavant, le candidat de la coalition de droite actuellement au pouvoir, Alvaro Delgado, avait reconnu sa défaite et félicité Chamandou Orsi. Ce dernier, qui n'aura pas de majorité absolue au Parlement, a promis qu'il serait à l'écoute de l'opposition.
Je serai le président qui appellera encore et encore au dialogue national pour trouver les meilleures solutions, bien sûr en suivant notre vision, mais aussi en écoutant très attentivement ce que les autres nous disent.
Un dialogue qui devrait être facilité par les convergences que Chamandou Orsi et Alvaro Delgado ont laissé voir durant la campagne, notamment en matière de relance de la croissance économique et de réduction du déficit fiscal. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
En Haïti, le nombre d'enfants recrutés par des bandes armées a augmenté de 70% en un an, alerte lancée par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, qui affirme que ces enfants représentent désormais près de la moitié des effectifs de ces gangs qui terrorisent le pays, des gangs qui contrôlent toujours près de 80% de la capitale Port-au-Prince.
Et puis retour en France où les Restos du Cœur viennent de lancer leur 40e campagne nationale.
Oui, les Restos du Cœur, c'est cette association qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion en offrant notamment de la nourriture aux personnes les plus démunies. Et parmi elles, de nombreux bébés. Ils représentent désormais 10% des bénéficiaires et leur nombre ne cesse d'augmenter. Reportage dans les locaux de Resto du Cœur Bébé dans le centre de Paris. Là-bas, les personnes dans le besoin sont reçues tout au long de l'année, mais sur inscription. 35 mamans poussent chaque semaine les portes de la structure où s'est rendue Laurence Théo.
Ça s'appelle Resto du Cœur Bébé, mais ce n'est pas un Resto du Cœur comme les autres. Catherine, puéricultrice à la retraite, explique la spécificité de la structure, unique en son genre à Paris.
Si vous allez au centre de distribution adulte, où vous passez dans une après-midi 400 mamans, vous n'avez pas le temps de discuter pour savoir s'il y a un souci particulier avec l'enfant, c'est de la distribution à la chaîne. Or là, nous, ce qu'on fait, et on fait de l'accompagnement, c'est, vous avez bien vu, les mamans sont reçues, on a le temps de discuter, si une maman nous dit quelque chose, on a le temps de voir avec elle. Et uniquement en fin d'entretien, on fait la distribution de lait, de couches, de petits pots si l'enfant est en âge.
Ce sont pour une grande majorité des mamans africaines sans papier, bébés dans les bras qui poussent la porte. Mariam est venue avec son petit garçon Kwame. Elle vit dans une grande précarité.
J'ai besoin de couches et le lait, avec des vêtements aussi. Honnêtement, je n'arrive pas à les acheter. Je n'ai aucune ressource.
Les bénévoles s'efforcent de satisfaire les mamans, mais elle manque de certains produits.
L'hygiène, c'est vrai, je pense que ça doit poser un problème. Là, j'ai plus le sérum physiologique.
Au moment de partir, on croise Mariam et Kwame avec lait et vêtements. Ils reviendront dans 3 semaines sur rendez-vous.
Un reportage signé Laurence Théo, 6h13 à Paris. RFI Matin, c'est parti avec vous, Julien Coquelroem.
Merci Gaëtan Plenem. Lundi 25 novembre 2024, bienvenue à vous. RFI Matin, 3 heures d'information en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, des violences notamment sexuelles qui ont explosé cette année dans l'est de la République démocratique du Congo où les civils fuient la guerre. Plus de 52 700 cas de violences recensés depuis janvier, 68% d'entre elles dans le seul Nord Kivu. Dans moins de 20 minutes, le journal Afrique nous emmène à Goma où une ONG cherche à sensibiliser les hommes sur la question. Et à 6h, temps universel, on part en Haïti avec les conséquences pour les femmes de l'explosion de la violence des gangs. Au sommaire également ce matin, la situation désespérée des civils au Soudan, 19 mois après le début de la guerre, qui a tué 150 000 personnes au moins et poussé plus de 13 millions de Soudanais sur les routes. Elliot Brachet revient du pays où l'on part notamment aujourd'hui dans notre grand reportage. On en écoute un extrait tout à l'heure. Et puis un sommet en Corée du Sud pour peut-être parvenir à un traité juridiquement contraignant contre la pollution plastique. 460 millions de tonnes produites par an, dont 22 millions finissent dans la nature. C'est notre question d'environnement dans quelques minutes. Mais pour commencer, c'est au Cambodge que nous partons ce matin, à la une en Asie, et ce sommet mondial sur la lutte contre les mines antipersonnelles qui s'ouvre aujourd'hui dans la deuxième ville du pays, Siem Reap. Cette conférence qui dure jusqu'à vendredi tombe à pic moins d'une semaine après la décision controversée des États-Unis d'autoriser la livraison de ces armes dévastatrices à l'Ukraine. Bonjour Valentin Sébron.
Bonjour.
En direct de Bangkok, en Thaïlande, vous êtes notre correspondant dans la région. Valentin, ce sommet qui a lieu tous les 5 ans est donc organisé cette année, je le disais, au Cambodge, un pays qui a une longue histoire avec les mines antipersonnelles.
Oui, les décennies de guerre civile et de conflits ont transformé une partie du Cambodge en champ de mines. Jusqu'à 10 millions de mines terrestres et autres munitions non explosées étaient enfouies sous le sol au début des années 90. Écoutez bien, c'est plus de mines que d'habitants à l'époque. Conséquence, un désastre humanitaire depuis 1979, date marquant la fin du génocide cambodgien perpétré par les Khmers Rouges qui, rappelons-le, a fait 2 millions de morts. Les explosions de mines au Cambodge ont tué près de 20 000 personnes et en ont blessé deux fois plus. Aujourd'hui, c'est un pays qui recense l'un des plus forts taux de personnes amputées par habitant.
Le Cambodge, qui est à l'heure actuelle d'ailleurs toujours aux prises avec ses mines antipersonnelles.
Oui, le pays demeure extrêmement contaminé. Plus de 500 km² de terre, soit près de 5 fois Paris, serait encore affecté par des mines antipersonnelles, principalement le long de sa frontière avec la Thaïlande, dans une région montagneuse et difficile d'accès. Et même si son objectif initial de se débarrasser totalement des mines en 2025 semble peu réalisable, le Cambodge a tout de même effectué un immense travail de décontamination. Au cours des 5 dernières années, c'est le pays qui, en termes de superficie, a déminé le plus de terrain au monde. En fait, l'histoire tragique du Cambodge a poussé le pays à développer l'une des meilleures expertises au monde en matière de déminage. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, par exemple, des démineurs ukrainiens ont été formés auprès d'experts cambodgiens. Le sommet mondial qui débute aujourd'hui est ainsi l'occasion pour le Cambodge de réaffirmer son leadership dans ce domaine.
Et quels sont aujourd'hui les enjeux de cette conférence internationale ?
Intitulé, je cite, « Pour un monde sans mines », ce sommet entend réunir des représentants des 164 États membres de la Convention d'Ottawa, signée en 1997 sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Objectif, évaluer les progrès accomplis dans la lutte de longue haleine, Mais cette année est particulière, notamment, comme vous l'avez dit, à cause de l'annonce inattendue la semaine passée des États-Unis, pays par ailleurs non signataire de cette convention, d'autoriser la livraison de mines antipersonnelles à l'Ukraine. On écoute Yeshua Moser Pwangswan, expert rattaché à la campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnelles.
Dans ce contexte global actuel, réunir tout un ensemble de pays pour travailler conjointement et efficacement à la résolution d'une telle problématique n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui en raison de la fragmentation croissante de l'environnement international.
Et ce d'autant plus que selon le dernier rapport annuel de l'Observatoire des mines auquel ce chercheur a participé, le nombre de victimes des mines antipersonnelles en 2023, qui pour leur immense majorité sont des civils, a augmenté de 22% par rapport à l'année précédente.
À la une en Asie, Valentin Sébron avec nous à Bangkok, merci beaucoup. Et nous sommes le 25 novembre, je vous le disais, ce lundi marque, comme chaque année, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Dans une heure tout juste avec vous, notre grande invitée internationale dans RFI Matin, la militante congolaise Tatiana Mukanire-Bandalire.
Oui, Tatiana Mukanire est une victime, une survivante, une femme engagée. Elle a été elle-même violée en 2004 lors de l'insurrection de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Soignée, prise en charge par le docteur Mukwege, elle a raconté son histoire dans un livre qui a beaucoup impressionné, au-delà de nos larmes. Elle parcourt le monde pour réclamer la fin de l'impunité, pour répéter que le viol est une arme de guerre depuis bientôt 30 ans en République démocratique du Congo. Et cette situation ne fait qu'empirer. Les derniers chiffres de l'ONG Médecins Sans Frontières donnent le vertige. En 2023, en RDC, 25 000 femmes ont subi des violences sexuelles. Ça signifie plus de 2 victimes par heure. Notre invitée Tatiana Mukanire est engagée au sein du mouvement des survivantes de violences sexuelles en RDC. Et ce matin, elle nous raconte son combat et son espoir de justice.
Arnaud Pontus avec nous dans une heure pour notre grande invitée internationale. À tout à l'heure Arnaud.
À tout à l'heure.
Et merci beaucoup. Il est 6h19 à Paris. Ils sont environ 90 000 en France, arrivés depuis mars 2022 pour fuir la guerre en Ukraine. On parle à présent des réfugiés ukrainiens et des mères de famille, très nombreuses parmi eux, alors que les hommes sont pour la plupart restés au pays, contraints d'aller au front. Nombreuses sont les Ukrainiennes parties se mettre à l'abri à l'étranger avec leurs enfants. Depuis mars 2022, l'Union européenne accorde à ces réfugiés un statut de protection temporaire qui leur permet notamment de travailler. Mais dans certains cas, encore aujourd'hui, l'insertion professionnelle essentielle à leur émancipation et à leur survie reste difficile. Reportage à Metz, en Moselle, dans l'est de la France, Amélie Beaucourt a rencontré deux mamans ukrainiennes qui tentent de se reconstruire.
Est-ce que tu es déjà allée à Paris ?
Oui, j'y vais.
Oui, j'y suis allée.
J'y suis.
J'y suis allée.
Chaque jeudi après-midi, dans le petit local du centre ukrainien de Metz, Olga vient prendre quelques leçons de français avant de filer à l'école pour récupérer son fils, 10 ans. Un petit garçon brillant qui a ramené dans ses valises le traumatisme de la guerre.
Son niveau est excellent, mais il ne parle pas, il ne mange pas. Il ne reste pas à déjeuner, à cantine. Et je dois chaque jour, 4 fois, aller à l'école. Parfois, il a crise panique. Quand il y a beaucoup de gens, sa jambe est paralysée. Je pense que ce n'est pas psychologue, c'est psychiatre, je pense.
Arrivée de Kharkiv en 2022, Olga vit avec son fils, sa seule famille, dans un foyer. Pharmacienne en Ukraine, elle rêve d'un appartement à eux pour se reconstruire en toute intimité. Mais pour ça, il faut un emploi.
Je dois prendre formation 3 ans pour valider que je suis pharmacien. Maintenant, c'est impossible. Je travaille comme femme de ménage. Avant déjeuner, je fais un nettoyage. Après, je prends mon fils. Après déjeuner, je ramène à l'école. Et après, je fais encore un ménage. Tous ces obstacles, c'est dur. C'est dur. Parfois, je n'arrive pas.
À côté d'elle, Valentina est arrivée en France avec ses 4 enfants sous le bras et ne trouve pas de travail. C'est la gorge nouée qu'elle raconte sa nouvelle vie.
Toute ma vie, je travaillais comme infirmière ou assistante médicale. J'adore mon métier. Malheureusement, ce n'est pas possible d'avoir équivalente parce que mon diplôme, mon expérience, maintenant, ça ne marche pas. C'est rien.
Sa seule solution, repasser les concours du médical. Mais pour ça, il faut obtenir un certificat de langue française et donc suivre des cours. Difficile à caser quand on est seul.
4 enfants, c'est beaucoup de travail à la maison, beaucoup occupé avec les enfants. C'est toujours quelqu'un malade. C'est comme habitude.
Et comme de nombreuses familles, Valentina devra quitter le logement social qu'elle occupe à la fin de la trêve hivernale en mars 2025. Notre reportage France à Metz, signé Amélie Beaucourt. Et dans notre question d'environnement aujourd'hui, de Bakou à Busan, la COP29 s'est achevée ce week-end en Azerbaïdjan sur un accord à minima de financement de la lutte contre le réchauffement climatique pour les pays en développement. Les pays riches n'ont pas autant mis la main au portefeuille qu'espéré. Pour financer cette lutte, il y a bien aussi, ceci dit, l'idée de taxes qui ne progressent que très lentement. Taxer le plastique pourrait rapporter par exemple jusqu'à 35 milliards de dollars. Et c'est justement sur le plastique que débute aujourd'hui un sommet en Corée du Sud. Bonjour Jérôme Bosman.
Bonjour Julien.
460 millions de tonnes de plastique produites chaque année et 175 États qui négocient depuis 2 ans pour parvenir à un traité juridiquement contraignant. Jérôme, l'enjeu c'est de pouvoir contrôler le cycle de vie du plastique, l'une des pires pollutions qui soit et l'un des facteurs du réchauffement du climat.
Exactement Julien. Les liens entre production de plastique et changement climatique ne sont plus à prouver. Le plastique est un dérivé du pétrole et compte pour environ 5% des émissions de gaz à effet de serre. C'est 2 fois les émissions du trafic aérien.
Et cette production augmente.
Oui, elle a doublé entre 2000 et 2020 et devrait à nouveau doubler, voire tripler d'ici à 2060 pour atteindre 1 milliard de tonnes. On retrouve ce même ordre de grandeur du côté des déchets parce que le recyclage mondial plafonne, lui, à moins de 10%. Au rythme actuel, cette production de plastique devrait occuper en 2050 près d'un quart du budget carbone restant pour contenir le réchauffement à 1,5 degré. Et ça, c'est sans compter les conséquences sur les puits de carbone qui sont eux aussi affectés.
C'est-à-dire ?
Eh bien, prenez le krill, par exemple, cette petite crevette qui vit dans les eaux de l'Antarctique. Elles sont des milliards et forment une puissante pompe à carbone. Eh bien, une étude britannique montre que les particules de nanoplastique dans l'océan empêchent le krill, ou plutôt ses excréments, d'absorber autant de CO2 qu'il le pourrait, à peu près moins 30%. Le plastique affecte à la fois l'environnement et le climat qui sont intrinsèquement liés.
Mais Géraud, tout le monde est donc d'accord pour dire qu'il faut en finir avec cette pollution plastique.
Oui, mais il y a de grosses différences sur la manière d'y parvenir. Deux camps s'affrontent. D'un côté, une coalition de haute ambition, près de 70 pays, le Rwanda, le Pérou, l'Union européenne, appuyée par la quasi-totalité des pays africains. Pour ce groupe majoritaire, on ne peut pas mettre fin à la pollution plastique sans limiter en amont sa production. Cette position ne fait pas du tout les affaires, on s'en doute, des pays pétrochimiques, Arabie Saoudite, Iran et Russie en tête. Ces pays-là veulent un traité non contraignant et qui se limite au traitement des déchets plastiques. Explication avec David Azoulay, expert au Centre pour le droit international de l'environnement.
Depuis 5 à 10 ans, ces producteurs sont en train d'opérer une transition pour orienter la plus grande partie de leur production de matières fossiles vers la pétrochimie et vers le plastique en particulier. C'est comme ça qu'on observe une augmentation quasi exponentielle des capacités de production en matière de plastique.
Et ces États sont renforcés par les acteurs du secteur pétrolier et de l'industrie chimique qui travaillent main dans la main. Ils étaient 200 lobbyistes sur 2500 participants lors de la session d'avril au Canada. À Busan, les positions très fluctuantes des États-Unis, de la Chine et de l'Inde, les trois grandes puissances du plastique, seront donc déterminantes.
Voilà, ce cinquième et logiquement dernier cycle de négociations sur les pollutions plastiques en Corée du Sud, Géraud Bosman pour Question d'environnement. Merci beaucoup. Bientôt 5h30 en temps universel sur la Radio du Monde. Un nouveau point sur l'info africaine dans 4 minutes. Tout juste, d'abord un peu de musique avec le Nigérian BOJ, le titre Jabo, avec son compatriote Odumo Black. C'est dans la sélection du mois d'RFI.
You know they stop till the daytime. You do know they waste for a waistline. Or a bucky ball, kilo by day. Between you, they pop, kilo a day. To my ya, my ya. There with the plug if you want go higher, higher. I'ma get my choco java, java, java. My la choco java, java. To buy everything, my choco java, java, java. My la choco java, java. If I got trouble, the java, java, java. Java, 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 Java. You already know I'm the head, don't you? Baby, kilo a fuck up. You already know anytime I shoot, you me come on my shaka. Every to pay and very important. While I must be under caution. Double up, make a double your portion. Sorry, why make I off your pump shot for back shot. But you know they stop till the daytime. I do know they waste for a waistline. Or a bucky ball, kilo by day. Between you, they pop, kilo a day. To my ya, my ya. They with the plug if you want go higher, higher. I'ma get my choco java, java, java. My la choco java, java. To buy everything, my choco java, java, java. My la choco java, java. If I got trouble, the java, java, java. Java, Java, Chibu Shenshe, Kule Java, 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 Mala Chico Java, Java.
Omo, she dey move like belly dancer. One leg, tiptoe, hangam. Anytime I call her, she dey answer. Bangam, master na ponster. Mix and master, engineer, Oya Wagba. Ajeko do me, shoddy, make you no dey grief. Monkey tail, Azude, Ibo na legit. Bad boy, Willy Wonka, for my factory. Chocolate women, food the bakery.
Ati no dey stop till the daytime. I do know they waste for a waistline. Or a bucky ball, kilo by day. Between the pop, kilo a day.
Les Nigérians BOJ et Odumo Black, le titre Jabo que vous retrouvez dans notre sélection du mois, c'est à l'adresse musique.rfi.fr. Bienvenue sur la Radio du Monde. Si vous nous rejoignez en ce lundi matin, un nouveau point sur l'info dans une minute, tout juste. À tout de suite.
Priorité.
Vitalité Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous parlons du viol conjugal.
Demain,
vos questions sur le paludisme.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce lundi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Une conférence pour le climat dans un pays grand producteur de gaz et de pétrole, l'Azerbaïdjan. Le choix a fait grincer des dents, mais pendant toute la durée de la conférence, Bakou a soigné sa communication et présenté l'image de sa transition verte.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10.